Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors justement, pour m'aider tous les jours à vous informer, à vous éclairer sur les sujets qui vous préoccupent, mais dans la bonne humeur, il est à mes côtés dans ce studio, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire, aujourd'hui nous ferons un point dans notre grand dossier du jour sur l'épidémie de coronavirus en France, mais surtout sur les mesures, enfin plutôt sur les informations présentées hier par le ministre de la Santé Olivier Véran, parce qu'il n'a pas annoncé pour le moment, il faut le dire, de nouvelles restrictions justement. Alors pour faire ce point, pour se projeter un peu, nous recevrons dans ce studio le professeur Christine Rouzioux. Elle est professeure de virologie à l'université Paris-Descartes et membre de l'Académie de médecine. Ensuite dans notre chronique, c'est pas une chronique puisqu'on est vendredi. Le vendredi, place à la beauté avec la chronique de Benjamin Lévesque. Cet après-midi, il va nous livrer tous ses meilleurs conseils pour bien se laver les cheveux. À quel rythme faut-il le faire? Combien de shampoings et quels produits faut-il privilégier? Benjamin nous dira tout. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle nous décryptera le comportement des petits-enfants qui adorent jouer au papa et à la maman.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va écouter la première question, c'est celle de Sylvain.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'entends souvent parler du terme métastase. Je sais que c'est un lien avec le cancer, mais c'est quoi concrètement? Voilà, merci pour votre réponse. Bonne journée, au revoir.
Alors pour vous répondre de façon précise, Sylvain, nous avons interrogé pour vous le professeur Mastis Agatchian. Elle est oncologue médicale à l'Institut Gustave Roussy et à l'Hôpital Américain.
La métastase, ce sont des cellules cancéreuses qui sont parties du site initial du cancer, par exemple si c'est le sein, si c'est le côlon, et qui migrent à travers le sang et les vaisseaux lymphatiques pour aller dans un autre organe. Quand ces cellules cancéreuses se retrouvent ailleurs, on parle de métastase du cancer initial, par exemple du cancer du sein, dans le foie, dans le poumon ou dans l'os. Mais il faut bien se rendre compte que ce sont les mêmes cellules que celles du cancer initial. Heureusement, quand on a un cancer, et c'est tout l'intérêt des cancers détectés tôt et des systèmes de dépistage, on découvre le cancer dans le site initial, dans l'organe initial, et puis après on fait des bilans pour voir justement s'il y a eu des métastases, parce que le traitement est évidemment différent si on a un cancer juste localisé dans un organe ou s'il y a des métastases qui sont parties dans d'autres organes. On peut parler parfois de métastases ganglionnaires, ça ce sont des cellules cancéreuses qui sont parties dans les ganglions très proches de l'organe initiale, et ces ganglions ont pour rôle justement d'empêcher que les métastases partent encore plus loin dans d'autres organes du corps.
C'était le professeur Sagatchian au micro de Benjamin Lévesque. On va passer à la deuxième question d'auditeur, cette fois-ci elle est pour vous Jimmy, c'est une question d'Hélène, elle a 28 ans, on l'écoute tout de suite.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Voilà, je voudrais me faire poser un périlème, mais mon gynécologue n'est jamais dispo, enfin pas avant janvier, et je voulais savoir, est-ce qu'une sage-femme peut me poser le stérilet et me faire aussi l'ordonnance pour que j'aille la récupérer à la pharmacie avant, ou est-ce que je dois quand même passer par le médecin?
Alors Jimmy, est-ce que les sages-femmes peuvent, au même titre finalement que les gynécologues, poser un stérilet déjà, pour répondre à cette première question?
Oui, évidemment, elles le font, et très régulièrement, mais elles proposent aussi toute la contraception. Le médecin généraliste qui fait un peu de gynécologie peut aussi le poser, mais elles sont tout à fait aptes à le faire, elles le font régulièrement, et en plus de ça, elles sont souvent, il faut être honnête, plus disponibles que les gynécologues qui sont moins nombreux et de plus en plus sollicités.
Alors, elles peuvent faire l'acte, c'est-à-dire la pose de ce stérilet, ça vous venez de nous l'expliquer, mais est-ce qu'elles peuvent aussi donc délivrer l'ordonnance? Parce que normalement, ça, on a l'impression, nous patients, que c'est que les médecins qui peuvent faire l'ordonnance. Mais...
Non, elles ont un droit de prescription, donc elles peuvent prescrire une contraception, un stérilet ou un traitement en rapport notamment avec la grossesse, donc il n'y a aucun problème. Il y a deux types de stérilets qu'elles peuvent prescrire, soit en cuivre, qui va permettre d'inactiver les spermatozoïdes, soit un stérilet hormonal qui va avoir un effet contraceptif. Ça va épaissir au niveau du col les sécrétions en empêchant les spermatozoïdes de migrer et de donner une éventuelle grossesse. Et puis, note intéressante, un stérilet en cuivre peut être posé en urgence dans les 5 jours qui suivent un rapport sexuel.
Un peu comme à
risque.
À la place d'une pilule du lendemain.
C'est
en fait,
une contraception d'urgence, donc ça peut être utilisé dès J1 et donc vous êtes à ce moment-là protégé. Et en plus, c'est remboursé par la Sécurité sociale. Il faut juste rappeler que le stérilet, c'est un petit dispositif en forme de T qui fait 3 cm qu'on insère au niveau du col, au travers duquel on va laisser passer un petit fil pour pouvoir le retirer lorsqu'on a un projet de grossesse ou lorsque la contraception ne marche pas. Et parfois, elles peuvent même le retirer simplement avec les doigts, sans spéculum. Donc ça se met très facilement et ça se retire encore plus facilement.
Très bien. Et d'ailleurs, on précise aussi qu'on peut le poser aujourd'hui, parce qu'on le répète souvent et on a souvent des questions en ce sens, même à des femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Hein,
exactement. C'est fini cette époque où le stérilet était réservé à la femme qui a eu des enfants. Si vous avez 20 ans et que vous désirez poser un stérilet, il n'y a aucun problème.
Parce que la pilule, ça s'oublie, parce que parfois,
exactement.
C'est pas le meilleur
moyen.
Le bon
moyen de conception, c'est celui que vous avez décidé d'utiliser. Vous pouvez prendre la pilule, mais il y a de plus en plus de défiance vis-à-vis de ça. Vous pouvez poser un implant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stérilet en cuivre coûte une trentaine d'euros remboursé par la Sécurité sociale à 65%. Et le stérilet aux hormones, c'est 120 euros remboursé à 65%. Et puis la mutuelle complète en règle générale. Donc c'est un moyen de contraception efficace et qui est accessible à quasiment tout le monde.
Alors juste pour revenir sur les sages-femmes et terminer là-dessus peut-être, Jimmy, non seulement elles peuvent prescrire donc, de la contraception, ça on l'a compris, mais ce n'est pas tout, elles ont d'autres choses qu'elles peuvent prescrire. Hein.
Évidemment, tout le suivi gynécologique classique peut être effectué par une sage-femme. Elles vous font des frottis, elles vont vous examiner les seins, ça se prend en charge la grossesse et le postpartum, éventuellement sevrage tabagique pendant la grossesse.
Elle prescrivent des patchs, par exemple.
Elle prescrivent des patchs, exactement. Donc, à ce moment-là, c'est quasiment le médecin de la femme. Et évidemment, quand il y a de la pathologie, elle vous oriente vers le gynécologue. Elles coûtent moins cher, vu qu'elles ne font pas de dépassement d'honoraires. Elles sont conventionnées secteur 1. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément de grandes mutuelles, c'est un accès pratique, disponible, très efficace. La consultation de la sage-femme, c'est 25 euros, remboursé aussi par la Sécurité sociale. Elles ont gagné 2 euros par rapport à il y a quelques mois.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Hélène qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Christine Rousiou. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur de virologie à l'Université Paris-Descartes et membre de l'Académie de médecine. Et avec vous, professeur Rousiou, aujourd'hui, on va commenter un petit peu ce qui s'est passé. Bon, hier déjà, et puis la situation actuelle. Hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est exprimé et a finalement pas annoncé de nouvelles restrictions pour le moment, en tout cas en Ile-de-France. On pensait qu'il y en aurait, effectivement. On a l'impression qu'il y a un sursis, dit on va laisser passer le week-end, on va réévaluer la situation lundi. Ça vous semble raisonnable?
Oui, enfin, ce n'est pas à trois jours près. Hein. Les chiffres se sont consolidés là, ce matin avec les chiffres de Santé publique France. Ce que l'on a vu hier par le ministre de la Santé, c'est des tableaux avec énormément de chiffres. Ce que je trouve plutôt bien. Je trouve qu'enfin, on va au-delà de simplement dire il y a beaucoup de positifs et c'est tout. Donc là, on fait une analyse assez fine et je pense que c'est très nécessaire parce qu'il y a une différence selon les régions de France, il y a une différence selon les grandes villes, les petites villes, il y a des différences selon les tranches d'âge, les petits, les adolescents dans les lycées, les personnes âgées et on voit l'évolution de cela différemment dans les différentes villes.
Jimmy ?
Le ministre a dit que nous étions dans une seconde vague, mais que pour l'instant, les hôpitaux n'étaient pas submergés. Mais est-ce qu'il faut attendre un signal tardif comme l'occupation des malades en réanimation ? Puisque cet été, comme il n'y avait pas de malades aux urgences, on pensait qu'il n'y avait pas de virus. Et ce n'était pas une erreur ?
Alors, c'était une vraie erreur de penser. Enfin, beaucoup de gens ont cru que c'était fini, étaient très contents de pouvoir un petit peu se relâcher. Malheureusement, on n'a pas contrôlé ce relâchement et l'épidémie remonte doucement. Alors, certains disent, mais non, on est à un plateau. Moi, je dis qu'on est au pied de la deuxième vague, voire sur le plateau, mais le plateau, il est plutôt un peu trop haut. Et effectivement, les choses se sont passées avec une première vague d'infection chez les jeunes, qui progressivement ont transmis et le virus a diffusé chez les personnes âgées. Et donc, on est dans les délais où ça va continuer à monter chez les personnes âgées, même si ça va peut-être peut-être descendre chez les jeunes, parce qu'ils vont se mettre au travail, ils vont arrêter de faire la fête, ils vont arrêter les séances d'intégration, tout ça, c'est fini. Et pour moi, c'est vraiment un enjeu majeur de ne pas aller vers le reconfinement. Il est très important que les jeunes se prennent la responsabilité, parce que l'enjeu, c'est pour eux. C'est eux qui doivent aller travailler, c'est eux qui doivent aller à la fac, c'est eux qui... Enfin, le travail, il faut vraiment préserver l'économie et tout faire pour surtout que le travail puisse continuer et qu'on n'ait pas à reconfiner.
Professeur Rousiou, si on prend Marseille, alors là-bas, le gouvernement n'a pas pris de gants puisqu'on a fermé tous les bars et tous les restaurants assez brutalement, diront certains. Est-ce que c'est une mesure à prendre ? Est-ce que les bars et les restos, justement, on le sait, c'est sûr, sont des clusters en puissance ?
Ah oui, non seulement ce sont des clusters en puissance, mais c'est des clusters bien démontrés. Alors d'abord, il y a une première étude qui montre que le risque de se contaminer, est 4 fois supérieure dans les bars et 2 fois supérieure dans les restaurants, parce que là, les restaurants ont un peu plus de distanciel. Et donc, ça montre bien que le distanciel est une mesure extrêmement importante quand on n'a pas son masque. Le port du masque, quand on ne boit pas, mange pas, est essentiel. Et puis, en fait, ça montre aussi, on va d'abord le nombre de clusters positifs avec à l'origine de bars et de restaurants, on les a maintenant puisque c'est bien mesuré par Santé publique France. Donc ça, c'est important. Alors le 22h, mais souvent posé comme question, à 22h02, le virus agit plus vite qu'à 9h moins 5,
bien sûr que non,
qu'à 10h moins 5, bien sûr que non. Et donc l'alcoolisation fait que, d'abord, les bars savent très bien nous dire qu'ils vendent le plus d'alcool après 10 heures. Donc,
quand on est alcoolisé, on est moins raisonnable sur les gestes barrières.
On est moins raisonnable, on ne porte plus de masque, on parle fort, on ne met plus de distance. Et donc, vraiment dire aux jeunes que c'est les moments de réunion resserrés, confinés, surtout maintenant où il va faire froid, c'est ça les moments les plus à risque.
Des villes comme Madrid, Montréal ou même en Israël ont décidé de reconfiner ou un confinement local a été annoncé notamment au Pays de Galles. Est-ce qu'en France, on est trop mou, on gère ça de façon trop attentiste ou en tout cas on a peur de l'opinion et de ce que pourraient dire les gens ?
Non, je crois qu'il faut vraiment qu'on s'appuie sur la responsabilité collective et que tout le monde comprenne que malgré tous les mauvais messages qui sont passés, il faut le dire, ça a été des mauvais messages, le masque, il protège dans les deux sens. Il se protège soi-même en premier et il protège de la réception des postillons du voisin et on protège les autres si jamais on est infecté. J'ai l'habitude de dire en tant que virologue, le virus, il est dans le nez, il est dans les voies aériennes supérieures. C'est par là qu'il sort et c'est par là qu'il rentre. Donc le masque, il marche dans les deux sens. Il n'y a aucun problème. C'est pas un problème d'accès au masque, d'une part, la majorité, et mettre des masques en tissu, c'est pas un souci. On les lave à 30 degrés, on se lave pas les mains à 60 degrés, donc on les lave. C'est le détergent qui compte. Donc tout ça est faisable.
Professeur Rosion, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, professeur Christine Rousiou. Je rappelle que vous êtes professeur de virologie à l'Université Paris-Descartes, également membre de l'Académie de médecine. Alors, on fait un point avec vous aujourd'hui sur la situation vis-à-vis de l'épidémie de coronavirus en France. Et on le sait, hein, pour stopper l'évolution des contaminations, ce qui est très important, c'est le fameux dépister, tracer, isoler. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que cette stratégie en France, elle fonctionne ?
Elle commence à ne plus très bien fonctionner. Oui. Pour une bonne raison, c'est que le nombre de clusters et le nombre de cas à dépister et à aller chercher pour les cas contacts de personnes positives commence à être suffisamment important pour que les autorités soient un petit peu dépassées. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que de toutes les façons, il y a quand même beaucoup de personnes asymptomatiques qui ne se savent pas asymptomatiques et qui ne se savent pas infectées. Et donc, cela, on passe à côté. Donc, on a quand même des conditions pour que le virus continue à circuler et pour qu'on fasse attention.
Est-ce que vous pensez qu'il faut relancer un peu de campagne, pas de publicité, mais de promotion de l'application Stop Covid? C'est un fiasco, ça marche dans d'autres pays. Au Royaume-Uni, ils ont téléchargé 14 millions de fois l'application en quelques jours, alors que nous, on a une grande défiance vis-à-vis de ça. Est-ce que ça pourrait être un moyen supplémentaire? Évidemment, ce n'est pas la panacée, mais dans des bars, dans des restaurants ou dans des salles de sport, quand elles vont réouvrir, de l'avoir activé pour peut-être savoir ce qui s'y passe.
Alors, il y a Stop Covid comme première solution, puis la deuxième solution que font un certain nombre de pays, c'est-à-dire prendre les numéros de téléphone et les identifiants de personnes qui sont rentrées dans la salle pour leur dire « vous êtes rentrées dans la salle, je ne le dis pas à toute la terre entière avec Stop Covid, mais je vous alerterai si jamais j'ai le moindre signal ». Et je trouve que ça aussi, c'est une bonne méthode. On a plutôt envie de savoir si on a été en contact avec le virus que de ne pas le savoir. Ça me semble évident.
Professeur Rousiou, si on parle de dépistage en France, alors il y a une époque, évidemment, on n'avait pas les capacités au printemps, par exemple, de tester tout le monde. Aujourd'hui, on a a priori les capacités, on teste beaucoup de monde. Est-ce qu'on teste les bonnes personnes? Et encore, pourquoi il y a des endroits où on attend 10 jours? Moi, j'ai des amis à qui c'est arrivé encore récemment. Le test, résultat 10 jours après, ça ne sert à rien, on est d'accord?
D'abord, je ne dis pas ça ne sert à rien. Un résultat positif, c'est toujours un résultat important à interpréter. Si on est cas contact, c'est vraiment important que dès l'instant où on l'apprend, on s'isole. On n'a pas besoin d'attendre le résultat du test pour savoir qu'il faut s'isoler.
Ça, s'isoler 10 jours quand on n'a pas de symptômes, ce n'est pas évident. Hein, si on n'a pas les résultats.
C'est pas évident, ouais. Mais si on est cas contact et qu'on va contaminer les autres, ouais. Ça, c'est évident qu'il ne faut pas le faire. Donc, de toutes les façons, cas contact, c'est pour ça que le tracing est si important, c'est pour aider les gens à comprendre qu'il faut vraiment s'isoler. Alors, quant au délai de rendu des résultats, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai eu le syndicat des jeunes biologistes avant-hier au téléphone qui me dit que les choses sont clairement beaucoup améliorées sur beaucoup d'endroits en France. Il y a encore des sites qui ont du retard pour rendre les résultats. Et pour beaucoup de ces laboratoires, c'est le manque de réactifs. C'est le manque de cônes, d'embouts, de petits matériels qui n'est pas livré par les États-Unis, qui est livré au compte-gouttes. Et tout ça fait qu'ils ont bien fait les prélèvements, mais ils ne peuvent pas faire les tests parce qu'ils n'ont pas les réactifs.
Jimmy ?
Dans le dernier bulletin de Santé publique France, qui est hebdomadaire, il apparaît qu'un des premiers clusters sont les écoles, et en particulier l'enseignement secondaire et les universités. Est-ce que ce sont des zones à risque ? Et à terme, est-ce qu'on ne risque pas de devoir fermer les écoles ?
Alors, les écoles, les clusters dans les écoles sont vraiment très peu nombreux. Je pense que non. Moi, je ne crois pas à la fermeture des écoles. Je pense que là, la surveillance est faisable, facile. Les nombres ne sont pas élevés. Par contre, les lycées, il faut vraiment être attentif et rappeler les conditions de protection aux adolescents, parce que là, ils s'infectent, peut-être ils sont à risque d'infection plus que les petits-enfants. Et les universités, alors là, c'est carrément dramatique. Là, j'ai vraiment été ennuyée quand j'ai entendu le ministre de la Recherche nous dire que, et de l'enseignement supérieur nous dire que non, il n'y a pas de souci. Il y a un souci majeur, il faut vraiment sensibiliser les étudiants, parce que sinon, ils ne vont pas pouvoir, et ça va retomber comme en mars, ils ne vont faire qu'en distanciel, ce n'est pas possible. Et là, bon, en fait, les réunions d'intégration, tout ça, c'est un petit peu passé, mais cependant, il y a des étudiants en médecine et des facs où il y a les 3 années avec des contaminations suffisamment élevées, les stages infirmiers sont bloqués. Enfin, c'est vraiment les universités, c'est une vraie cible parce que ce sont des jeunes qui font encore la fête. Ils n'ont pas encore assez de boulot. Allez, et pas assez de cours.
On va leur donner un petit peu plus vis-à-vis de 30 ans, au moins s'amuser. Professeur Rosio, juste un mot pour rapidement sur les tests salivaires. On en parle beaucoup. On ne sait pas, ils arrivent quand ? Est-ce que ça va vraiment permettre d'améliorer les choses en termes de dépistage ?
Alors, les recommandations de l'HAS disent les tests salivaires. Enfin, on peut prélever la salive pour des personnes pour lesquelles c'est difficile de faire un prélèvement dans le nez.
Des enfants, par exemple.
Les enfants, les personnes âgées, enfin, certaines situations, de situations de handicap, les autistes, des cas comme ça. La salive, c'est un prélèvement. Après, il y a la technique derrière qui n'est pas un test en soi. La salive, et comme le prélèvement nasal, peut être testée soit par une technique de PCR, soit maintenant par des techniques de détection non plus.
Mais ça prend autant de temps, en fait.
Mais le prélèvement prend autant de temps. Il faut enregistrer, ça prend autant de temps. La technique derrière, il peut y avoir des tests faits à partir de la salive avec des tests antigènes qui prennent 40 minutes. On est en train de les évaluer. On est en train d'avoir les résultats de ces évaluations.
C'est pas ça qui va changer la face du
dépistage. Pour le moment, ceux qui sont disponibles ne sont pas assez sensibles et ne pourront en rien remplacer les tests, les techniques de PCR actuellement.
Professeur Rosio, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, professeur Christine Rosio. Vous êtes professeur de virologie à l'Université Paris-Descartes et membre de l'Académie de médecine. Et donc aujourd'hui, avec vous, on commente évidemment l'épidémie de coronavirus qui s'étend en France. Alors, s'il y a une chose sur laquelle la plupart des experts sont d'accord, c'est qu'aujourd'hui, en octobre, on est quand même capable de mieux prendre en charge cette maladie qu'en mars dernier. Il y a quelques jours, notamment à l'Institut Pasteur, alors ça n'a rien à voir avec la prise en charge, mais on nous parle de molécules de plus en plus efficaces, en tout cas qu'on sait qu'il faut utiliser pour éviter les aggravations. Et là, peut-être une nouvelle molécule, on ne sait pas laquelle, serait intéressante à l'Institut Pasteur. Est-ce que c'est prometteur ou pas ? On a des raisons de se réjouir ?
Alors, c'est l'Institut Pasteur de Lille avec une société associée. Faut dire clairement les choses, ils sont en train de chercher l'argent pour pouvoir faire un essai thérapeutique qui démontrerait correctement, dans des bonnes conditions, avec un essai contrôlé, d'emblée, bien utiliser la molécule.
Parce que là, c'est dans des tubes à essai, en fait.
Alors, c'est pas dans les tubes à essai, c'est dans les cultures cellulaires, mais le passage chez l'homme est quand même autre chose. Alors, visiblement, c'est une molécule qui est utilisée pour d'autres pathologies, ce qui fait qu'on connaît à peu près. Enfin, ils ont l'air de connaître.
Vous savez à peu près quelle molécule on parle ?
Absolument pas.
Personne ne le sait. Parce qu'on veut éviter des cohues comme il y a eu, et puis des fausses
on veut éviter
des idées
surtout,
comme la chloroquine, ce que ça a donné.
Ils veulent en garder la paternité. éviter et surtout pas se faire doubler parce que c'est honorable. Mais ça n'est pas, enfin pour le moment, on n'a pas du tout idée de. C'est une molécule connue, mais c'est
un antiviral. Ils disent.
C'est un antiviral.
Est-ce que le salut viendra du vaccin? Est-ce qu'on en aura vraiment besoin pour retourner à une vie normale, puisqu'on parle de deuxième vague, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y en avoir une troisième, une quatrième? On n'en a aucune idée. On nous avait dit, certains, notamment le professeur Raoult, qu'il n'y aurait jamais de deuxième vague. Il s'est trompé, comme dans de nombreux sujets. Mais est-ce que le salut viendra du vaccin?
Alors, pour moi, il y aura sans doute des troisième et quatrième vagues. Hein. Tous les virus respiratoires...
On est à peine dans la deuxième, vous nous parlez déjà de la troisième et la quatrième.
Mais c'est important de le dire, qu'on comprenne que ce n'est pas juste cet hiver et puis après, la vie d'Aloca.
On ne sait pas du tout comment on pourrait faire disparaître ce virus, sachant que tous les virus respiratoires reviennent chaque hiver, en même temps que les virus grippaux. Celui-là semble beaucoup moins se modifier, muter, se transformer que les virus grippaux qui ont des cousins et des cousines de toutes les couleurs et qui font qu'il faut changer le vaccin tous les ans. Là, celui-là, on aurait au moins la bonne nouvelle que le vaccin pourrait éventuellement être monomorphe correctement. Sauf que on a encore, pour prouver qu'un vaccin est efficace, il faut qu'il induise une bonne immunité contre le virus, mais il faut surtout qu'on démontre qu'il protège d'une infection. Et ce n'est pas tout à fait la même chose qu'avoir un peu d'anticorps que d'être protégé vraiment d'une réinfection ou d'une infection. Et là, les signaux ne sont pas très très bons, parce que dans les infections à coronavirus, en virologie, on sait que l'immunité ne persiste pas beaucoup, pas longtemps, 3, 4, 6 mois, et que du coup, il faudra sans doute des vaccins avec des revaccinations,
plusieurs doses,
etc. Donc bon, les nouvelles technologies avec les vaccins ADN, ARN, on n'a aucune expérience vis-à-vis d'aucune autre infection virale. Donc on va vraiment vers des nouveautés, ça a été extrêmement vite, avec beaucoup de nouvelles technologies, mais savoir laquelle va marcher et comment l'organisme va réagir, là, on a encore beaucoup à apprendre.
Alors justement, l'INSERM lance un grand essai sur un vaccin et cherche actuellement 25 000 volontaires sans limite d'âge, ils ont dit, pour ceux qui seraient tentés de répondre à cet appel. On peut les rassurer, c'est prudent de servir de cobaye dans ce genre d'essais thérapeutiques qui sont un peu faits dans l'urgence quand même, il faut dire ce qui est.
Alors, d'abord, ce n'est pas un essai thérapeutique. À mon avis, ils vont essayer, le gouvernement est en lien avec plusieurs sociétés.
Bien
et
sûr.
Donc, si j'ai bien compris, il y aurait peut-être 3 candidats vaccins.
C'est ça.
Évidemment, il va y avoir des phases 1, phase 2, phase 3, donc ça va être fait dans des conditions éthiques tout à fait raisonnables. L'idée est de devancer l'appel. Plutôt que d'attendre que les gens viennent, on aurait une grande cohorte de gens constitués au moment où on aurait accès au vaccin. Donc c'est une bonne idée. C'est une bonne idée d'y participer si tant est que les premiers essais vont être convaincants et sans effets secondaires difficiles pour les patients.
Alors c'est vrai qu'il est difficile d'annoncer la météo avec précision au bout d'une semaine, mais est-ce qu'on peut espérer pour la Toussaint ou peut-être pour Noël, si on fait tous attention, une perspective un peu moins sombre que celle dans laquelle nous sommes en ce moment ?
Alors moi je suis optimiste et je dis qu'effectivement...
Ça me fait plaisir, aussi.
Je dis qu'effectivement, il faut tout faire pour qu'au moins les vacances de Noël soient rassurantes et qu'on puisse se réunir en famille. Parce que
Toussaint, il faut oublier là, d'aller voir les grands-parents. C'est dans Toussaint, 3 semaines à peu près, c'est pas la peine.
Moi, grand-mère, je ne vais pas prendre mes petits-enfants à la campagne parce qu'effectivement...
3 semaines, c'est vraiment demain encore, donc c'est pas possible.
Parce qu'effectivement, je fais partie du groupe de personnes qui doit presque se reconfiner et faire particulièrement attention. Donc je ne peux pas parler à la radio et puis pas faire ce qu'il faut. Par contre, il faut tout faire pour que Noël puisse être préservé.
Et
là,
ça,
je pense que même là, tout ça, on aura déjà des effets positifs. Moi, je suis optimiste. Je pense qu'en faisant très attention et le froid venant, les gens vont rentrer chez eux et les étudiants vont se mettre au travail.
Donc, ce sera peut-être un Noël un peu collectif, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup, professeur Rousiot, d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir apporté votre éclairage extrêmement précis sur la situation. Merci encore.
Merci.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, il est temps de nous faire du bien, de vous faire du bien, de prendre soin de votre apparence avec vous, Benjamin Lévesque. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Alors pour savoir de quoi vous allez nous parler aujourd'hui, on va écouter d'abord un petit extrait.
Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui n'avaient pas de shampoing. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux.
Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais prendre soin de vos cheveux. Et plus précisément, on va voir comment bien se les laver. Et pour commencer, eh bien, je suis allé dans la rue pour savoir comment vous, les Français, vous laviez les cheveux.
Tous les deux jours.
Comme j'ai les cheveux longs, ça sera plutôt une fois tous les 2-3 jours.
Alors moi, c'est tous les jours.
Je tire un shampoing tous les 3 jours et...
Enfin, je mets une fois une dose de shampoing pour laver dans un premier temps, une deuxième fois encore le shampoing.
Je lave une fois et après je rince et après je mets des mélanges.
Le premier passage du shampoing, je fais le gros, donc je frotte bien. Le deuxième, je vais plutôt masser.
Quand je suis pressée, il m'arrive d'utiliser le shampoing sec.
J'ai l'impression que ça lave pas vraiment les cheveux. Moi, je préfère utiliser le shampoing normal. C'est beaucoup plus simple.
Alors, on va reprendre les bases concernant le lavage des cheveux. Première chose, on l'a entendu, certains disent qu'il faut espacer les shampoings 2, 3, 4 jours, d'autres qui vont dire qu'il faut les laver tous les jours. Eh bien, en fait, il n'y a pas vraiment de règle. Vous pouvez les laver tous les jours, comme une fois par semaine. En fait, s'ils graissent rapidement, eh bien, vous allez faire des shampoings plus souvent. Et puis, pas besoin sous la douche, eh bien, de se frotter les cheveux comme un malade. Mais il faut y aller délicatement en faisant un petit massage, comme l'explique le coiffeur François Lally.
Donc il vaut mieux masser plutôt que frotter son cuir chevelu, puisqu'en fait frotter va faire une activation plus importante de la glande sébacée et donc un cheveu plus gras qui va régresser beaucoup plus vite.
Benjamin, éclairez-moi, combien de fois on doit se laver les cheveux ? Un ou deux passages, un ou deux shampoings ?
Ah oui, c'est vrai que bien chez nous, on a plus l'habitude de faire un seul shampoing, alors que eh bien, quand on va chez le coiffeur, eh bien, là, il nous a fait deux shampoings.
Ben oui,
et là,
on se dit
tout d'un coup, bah, tiens, mince, j'ai les cheveux vraiment si sales ? Eh bien, en fait, pas forcément. Écoutez la réponse de notre spécialiste.
Au niveau du shampoing, on peut en faire un ou deux. C'est en fait, il faut en faire un deuxième si le premier shampoing ne mousse pas. Mais dans le principe, c'est faire un shampoing suffit. Après, selon les marques et selon le shampoing traitant, c'est important de lire la notice parce que certains shampoings nécessitent deux shampoings, deux applications, parce qu'il est traitant et donc l'action traitant se fait au niveau du deuxième shampoing.
Et ensuite, on peut faire un après-shampoing. Là, c'est vraiment pour démêler les cheveux. Ce n'est pas une obligation.
Évidemment.
Et une astuce, alors c'est plus facile l'été, mais il vaut mieux rincer ses cheveux à l'eau froide. Explication.
Eau chaude ou eau froide ? Pour moi, c'est plutôt eau froide. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'eau froide va venir fermer les écailles du cheveu et rendre le cheveu plus brillant.
Et quand on sort de la douche, eh bien on évite, vous savez, de s'essuyer les cheveux en se frottant très fort avec sa serviette. Ça risque au contraire de les emmêler. Il faut les laisser sécher sous une serviette. Et le sèche-cheveux, c'est OK, mais à froid car la chaleur affecte la kératine du cheveu et donc les abîmes.
Bon, Benjamin, moi, je vais vous faire une petite confidence. Parfois, je n'ai pas le temps de faire un shampoing et j'utilise du shampoing sec. C'est bien ou pas ?
Oui, c'est le spray miracle. Je l'utilise aussi, je vous rassure,
mais
Mélanie.
Ça peut rendre service.
Alors, est-ce que ça nettoie vraiment les cheveux ? Eh bien, j'ai posé la question à notre coiffeur, François Lally, et voici sa réponse.
Le shampoing sec, pour moi, c'est une bonne alternative pour ne pas se laver les cheveux trop souvent. Tout simplement, il y a différentes poudres qui sont à l'intérieur de ce shampoing sec, tout comme poudre de maïs ou argile, qui vont être des poudres absorbantes et qui, au moment du brossage du shampoing sec, vont éliminer toutes les matières qui ont pu être dans les cheveux, comme le gras, les saletés, etc., vont s'éliminer avec le shampoing sec.
Et ce shampoing sec, eh bien, il faut l'appliquer sur les racines. On laisse reposer quelques minutes pour que la poudre, eh bien, absorbe correctement la saleté. Et ensuite, on va brosser ses cheveux pour éliminer cette poudre et les impuretés.
Jimmy, vous êtes plus poudre de maïs, poudre de blé, poudre de...
Bon, c'est poudre de cacao dans le lait avec le chocolat, ça me va très bien.
Très bien, merci beaucoup Benjamin Lévesque.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous comme toujours depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette ultime séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint dans ce studio. Catherine Blanc qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à cette question d'Alan. On va l'écouter en premier.
Bonjour. Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais une question concernant ma fille de 4 ans. Donc, j'ai un ami qui a un fils de même âge et donc qui a surpris ma fille avec son fils donc dans le lit en train de jouer au papa, à la maman, donc chose que voilà tout enfant de cet âge fait. Mais voilà, je me posais la question de est-ce que c'est normal que à cet âge-là les enfants ont déjà des idées concernant ce sujet ou dois-je m'inquiéter ou non ?
Catherine, 4 ans. Est-ce que c'est normal de jouer? Alors, il ne décrit pas exactement la scène, mais il jouait donc au papa et à la maman dans le lit, apparemment. Est-ce que c'est grave, docteur?
Eh bien non, c'est tout à fait normal. Après, évidemment, on va développer un petit peu plus, mais c'est tout à fait normal puisque à partir de 2 ans et demi, 3 ans, l'enfant est dans une préoccupation majeure quant au sujet de la sexualité. De son sexe, d'abord, de son appartenance sexuelle, et de qu'en faire. D'ailleurs, c'est la pulsion sexuelle s'éveille. L'enfant, du coup, est très, très curieux de cette zone qu'il touche, qu'il triture, qu'il cajole, ou qu'il montre, qu'il exhibe. Et évidemment que ça ne manque pas de faire partie de ces jeux avec sa fratrie, ses copains-copines, indépendamment d'ailleurs de sexe identique ou opposé, puisque ce n'est pas tellement l'idée de constituer de l'homosexualité ou de l'hétérosexualité, mais faire de la sexualité. En tout cas, interroger ce sujet-là.
Jimmy ?
Il y a peut-être une frontière entre montrer son zizi ou ses fesses, par exemple, et de simuler, par exemple, l'acte avec une petite de 4 ans, parce que peut-être qu'il a vu aussi des images qu'il n'aurait pas dû voir, qu'il cherche à reproduire.
Absolument. Et c'est là que, évidemment, on se pose la question de ce que l'enfant essaie de rejouer. Alors, il ne l'a pas vu que dans les images. Sachez que s'il vit à la campagne, il l'a vu aussi au travers des animaux. Les enfants ont cette culture-là. La pornographie n'est pas la seule qui donne ces informations-là. Pas plus que d'ailleurs la chambre parentale. Il y a aussi la vraie vie. Il y a les films aussi, les films de série B, tout à fait normaux.
Parfois, on voit des choses, même des petites scènes un peu sensuelles, on va dire, à la télévision. Et l'enfant de 4 ans, on croit qu'il ne regarde pas. Et en fait, il a capté des choses, c'est ça?
Exactement. Et puis, on voit aussi des coups, même quand c'est très soft, sous la couette, où ça bouge. Et l'enfant a bien compris quel serait son rôle. Et donc, d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que les enfants, souvent, imaginent ça comme en étant l'un sur l'autre. Ils n'ont pas du tout compris qu'il y avait une histoire de pénétration. Mais ils sont l'un sur l'autre et se frottent, comme d'ailleurs, quand ils veulent s'exciter, ils se frottent sur leurs édredons, leurs coussins ou leurs poupées ou nounours, et pour essayer de comprendre. Et quand ils se frottent, ils voient qu'il y a une excitation, qu'il y a un plaisir, le clitoris des petites filles ou le pénis des petits garçons. Et donc, quand ils jouent ensemble, ils refont ce truc de se frotter. Il n'est pas question de pénétration, mais bien de cela majoritairement.
À vous écouter, Catherine, il semblerait qu'il ne faille pas s'inquiéter. Finalement, on n'a pas besoin d'amener tout de suite son enfant chez le psy en disant « Ouh là 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 là, il est hyper... »
Il a joué au papa et la maman, « Ouh là là là, il est pervers, ou je ne sais quoi. »
C'est ça, oui, ils n'ont pas de perversion particulière si on les prend en flagrant délit de faire ça.
Absolument, il n'y a pas à s'inquiéter. Par contre, il faut d'abord vérifier quand même préalablement une chose, c'est que les deux enfants jouaient parce que les deux enfants en avaient le désir. Là, on a affaire à deux enfants du même âge, on est moins inquiet que quand il s'agit de deux enfants avec un écart d'âge, avec donc une domination de l'un sur l'autre.
Bien sûr.
Mais même dans deux enfants du même âge, on vérifie que les deux, et ne pensant pas toujours que la petite fille serait la victime du petit garçon, parce que c'est peut-être l'inverse, mais que les deux n'ont pas été choqués, brusqués dans ce jeu qu'ils n'avaient pas envie de faire.
Qu'aucun n'a forcé l'autre,
voilà.
Je ne sais quoi.
Donc on le dit, vous jouiez, et à quoi, et pourquoi, voilà. Et d'ailleurs, à cet âge-là, les enfants ne sont pas du tout gênés.
Ils expliquent très bien, souvent.
Ah oui, ils s'expriment, et tu vois, on fait ça. D'ailleurs, ils sont souvent curieux de votre propre désarroi ou de votre propre pudeur. En vous disant, mais quand même, je ne vais pas t'apprendre.
C'est un jeu, quoi. Oh.
Et puis, je ne vais pas t'apprendre, papa ou maman, comment on fait. Parce que nous, on sait. Alors, si toi, tu ne sais pas, tu m'expliqueras.
Mais ça reste un jeu jusqu'à quel âge? Que 4 ans, c'est acceptable, mais à quel âge on commence à dire?
À partir de l'âge de raison, c'est-à-dire 6-7 ans, l'enfant gagne en pudeur. À ce moment-là, il est tout au contraire, il va vivre, continuer à potentiellement jouer à ça. Mais il va avoir une grande culpabilité. Et là, il ne s'exprime plus très aisément. Et c'est là aussi, s'il est contraint d'une manière ou d'une autre, qu'il est dans la difficulté de son expression. Donc, c'est là qu'il faut être vigilant. Donc, pas d'angoisse, mais laissons quand même l'enfant s'exprimer pour savoir jusqu'où c'est allé et si tout va bien.
Merci beaucoup, Catherine. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tout de suite, place à Mathieu Noël et Stéphane Bern avec leur nouveau rendez-vous. C'est historiquement vôtre. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Mélanie.
Bonjour, Mélanie.
Danse avec les stars. Danse avec l'histoire, tel est notre thème aujourd'hui, Stéphane.
Mais oui, des grands danseurs, hein. Le roi Louis XIV, le roi danse. Et puis Auguste Rodin.
Il dansait pas, mais il aimait bien les danseuses.
Oui, il aimait bien les danseuses, il faisait pas de pensée, lui. Et vous avez choisi un personnage vivant, contemporain.
Mais oui, un danseur en chaussettes, John Travolta. On parlera de ça, puis on parlera un petit peu de ses liens avec la scientologie, peut-être.
Ah, très bien.
Merci messieurs, je vous souhaite une très belle émission. On sera à l'écoute, et vous aussi surtout, restez sur Europe 1.